voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, sujet éducation, comme chaque vendredi, nous parlons des primo-arrivants africains, ces jeunes migrants qui viennent d'arriver en France. Les attend un long parcours pour obtenir un titre de séjour, un logement, un travail. Et puis, pour les plus jeunes, qui viennent souvent rejoindre leurs parents, mieux vaut retourner sur les bancs de l'école afin d'apprendre ou de perfectionner son français. Ils doivent se faire à la langue, s'adapter à un nouveau système scolaire et bien sûr à un marché de l'emploi en crise où il vaut mieux connaître les secteurs qui recrutent. Alors à quelles difficultés ces jeunes font-ils face pendant leurs premières années en France, en perte de repères, le temps de trouver leur marque, condamnés à réussir pour eux et pour leur famille? D'ailleurs, quel rôle peuvent jouer leurs parents, souvent démunis face à une institution, l'école et des règles qu'ils ne comprennent pas? Beaucoup de questions donc aujourd'hui. Pour y répondre, nos invités du jour, Mamadou Diallo, bonjour. Vous avez justement traversé ce parcours du combattant, vous êtes originaire de Sierra Leone, vous avez grandi en Guinée-Conakry avant de venir retrouver votre mère en France. C'était un regroupement familial et aujourd'hui cela fait 10 ans que vous êtes en France, c'est ça?
Oui, exact.
Et vous êtes chaudronnier sur des chantiers, on expliquera tout à l'heure en quoi consiste votre métier. Peggy Lelegardi, allô, bonjour.
Bonjour Camille.
Vous avez été son enseignante, vous en gardez, je crois, un bon souvenir cet élève-là.
Oui.
Vous êtes professeur toujours en lycée professionnel, là où sont orientés un grand nombre de ces jeunes migrants. Et vous publiez un livre sur le sujet « Les primo-arrivants africains et la voie professionnelle, réussite ou échec ». Bonjour Anne Gosselin.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre de Population et Développement, rattachée à l'Université Paris-Descartes et à l'Institut de Recherche pour le Développement. Et vous travaillez sur l'installation des migrants subsahariens en France. Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Vous sentez-vous concernés? On attend vos appels, vos points de vue, vos questions pour nos invités, si vous en avez, au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et puis, vous pouvez bien sûr nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et vous réagissez déjà sur Facebook, les voisins. Vous êtes nombreux à donner votre avis. Djibril nous écrit de Caille, au Mali. Il nous dit « Partir pour s'offrir plus de rêves et en produire pour ceux qui restent au pays. Telle est la solution qu'on a trouvée contre la pauvreté dans mon pays. Mais ceux qui restent et qui consomment et dépensent ce qu'on leur donne ignorent totalement la réalité des conditions de vie des migrants partis pour eux. » On a également Claude à Douala qui lui est critique, qui nous dit « Ces problèmes sont dus à la malgouvernance gouvernance de certains chefs d'État africains qui malheureusement ne se sentent pas concernés par ce qui se passe, ils sont ridicules. Mmh. Ibrahim est à N'Djamena au Tchad, lui est en colère, mais pas pour les mêmes raisons, il nous écrit « Les migrants africains sont rarement bien accueillis, ils éprouvent beaucoup de difficultés car ils sont victimes de discrimination raciale, et ce qui m'énerve chez eux, c'est leur ignorance, ils sont nombreux à croire que l'Europe est un paradis terrestre où on devient riche sans effort. Parfois, certains migrants avaient un métier convenable chez eux, et ils le quittent pour affronter la galère et la misère. Quelle triste réalité! Pourtant, l'Europe n'est pas un continent hospitalier. À tous mes frères qui ont envie de partir, venez au Tchad, pays d'Asie, où on ne te demande aucun papier. Les habitants ici sont accueillants. Et on a également Bandoumal qui nous écrit aussi depuis N'Djamena. Je le cite. Le début pour un migrant n'est jamais facile. Il faut résoudre plein de problèmes. Mais une fois qu'il trouve du travail et s'intègre à cette nouvelle société, il finit par retrouver la joie qu'il avait perdue. En Europe, plus particulièrement en France, si tu es intelligent et travailleur, rien ne t'empêche de trouver ta place dans ce nouveau pays. Peggy Lelegard Diallo, pourquoi vous êtes intéressée aux primo-arrivants africains, ces migrants donc qui arrivent pour la première fois en France et s'y installent dans la durée?
Alors ceci s'explique par mon parcours. Moi je suis professeure de lycée professionnel, donc de biotechnologie, option santé environnement. Et lorsque j'étais nommée sur l'Académie de Paris, j'ai pu noter une surreprésentation des jeunes issus de l'immigration. Mon premier poste a été donc au lycée professionnel Chennevières Malézieux, où j'ai rencontré donc Mamadou. Mamadou a été mon élève. Dans cet établissement, plus de 95% des élèves étaient des jeunes issus de l'immigration, donc beaucoup d'Africains, des jeunes donc de seconde génération ou des primo-arrivants. Donc, mes passages dans d'autres lycées ont fait remarquer les mêmes choses. Toujours une surreprésentation des jeunes issus de l'immigration dans la voie professionnelle.
Alors, on y reviendra. Pour intégrer un enfant arrivé en France, il faut passer par le CASNAV. En fait, le CASNAV, c'est un centre qui, pour chaque académie, va évaluer le niveau scolaire des primo-arrivants avant de les répartir dans des écoles, primaires, collèges, lycées, en fonction évidemment de l'âge et puis de leur niveau, surtout en français. Et arrivés dans leur nouvelle école, ils rejoignent des classes spéciales qu'on appelle les UP2A. Notre reporter Alice Milot s'est rendue dans une de ces classes, dans un collège parisien, une classe qui accueille une dizaine d'élèves, tous de nationalités différentes.
Alors, quel jour on est? Apparemment, il y a un problème là dans les couloirs. Quel jour on est?
1 décembre.
1er décembre. Jeudi, 1er décembre. Je vous marque la date.
On est au collège Thomas Mann, situé dans le 13e arrondissement, et plus précisément donc dans une classe appelée UPE2A, donc comme unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Donc c'est une classe qui a pour objectif d'apprendre le français à des élèves qui viennent de tous les pays du monde. En fait, c'est plus ça qui est difficile pour nous en tant que professeurs de français en UPE2A, c'est jongler avec l'hétérogénéité des élèves. On va avoir un élève chinois qui ne va pas parler un mot de français, à côté d'un élève tunisien qui va parler couramment français à l'oral, mais qui aura du moins des difficultés à l'écrire. Donc on va passer par des biais, ça peut être des dessins, ça peut être du mime, et vraiment, si avec tout ça, on n'arrive toujours pas à se faire comprendre, on a toujours la possibilité maintenant avec les ordinateurs d'utiliser
un traducteur
voilà, en ligne qui est à peu près fiable. Là aussi, il faut un peu se méfier parce que des fois, certains élèves me disent « Ah mais non, mais pas du tout, ça ne veut pas du tout dire ça en fait dans ma langue. » Donc voilà, je trouve que le mime et le dessin, c'est quand même plus fiable.
Tu t'appelles comment ?
Thomas. Je suis en France depuis 8 mois. Quand je ne parlais pas français, quand je suis arrivé, jamais je sors de la maison.
Ça te faisait peur ?
Ouais. Maintenant, je peux sortir, je peux aller avec mes amis.
Et donc, tu n'avais pas trop de copains, alors, au début ?
Non, mais j'ai beaucoup maintenant.
Nous, on a appris l'anglais, on a appris l'espagnol, l'italien, l'allemand, mais c'était des langues scolaires. On n'en voyait pas, finalement, la finalité. Alors que là, ils apprennent le français parce qu'ils ont immigré en France. Ils sont là, voilà, pour y faire leur vie. Ils sont petits, ils vont rester là, certainement, dans la plupart des cas. Le midi, à la cantine, la cantinière va leur parler en français. Dans la récréation, les autres enfants vont parler en français. Dans la rue, à la boulangerie, n'importe où. Donc, ils sont dans un bain, en fait, de français. Donc, je pense que c'est ça aussi qui permet cette imprégnation et cette accélération de l'apprentissage de la langue. C'est vraiment une utilité. C'est pas j'apprends de l'anglais pour peut-être un jour aller 2 jours à Londres ou écouter un film en anglais. Non, là, c'est vraiment une nécessité. Donc, ils sont vraiment en demande. Et puis, il faut pas oublier que certains sont les seuls à parler français. Quand je dis les seuls, ça veut dire que les parents travaillent. Ils n'ont pas la possibilité d'apprendre le français. Ils n'ont pas le temps. Donc, ils comptent énormément sur leurs enfants. Donc, on a parfois des enfants qui se retrouvent dans une place, d'ailleurs, qui n'est pas la leur, qui est de faire des démarches administratives, de remplir des formulaires, parce qu'à la maison, personne ne comprend cette langue. Dès qu'on sent l'élève suffisamment apte à parler, à écrire en français, donc, il regagne de plus en plus, en fait, sa classe ordinaire.
Et vous, vous avez des retours une fois que l'intégration complète, elle est faite ?
Oui, pour la plupart. Là, encore hier, j'avais un collègue qui me disait qu'une élève avait eu les compliments, qu'elle était parmi les meilleures, en fait, dans sa classe. Pour la plupart, honnêtement, ça fonctionne vraiment bien.
Alors, on prend son stylo vert. Et on corrige. Et on corrige. Par terre, comment on appelle ? Alors, t'avais mis le tapis, ça m'a fait rire, c'était pas mal. Vous m'avez fait rire, hein. Qui c'est qui m'a mis pour rez-de-chaussée, oui. Ça donnait rez-de-chaussure. Mais en même temps, c'est pas idiot, hein. C'est la même racine, hein. Chaussée, chaussure.
Et puis moi, j'ai dit non, c'est le sol.
Voilà, c'est le sol.
Je m'appelle Roua Amimi. J'ai 15 ans. Je suis tunisienne. J'ai presque 8 mois ici dans le collège.
Aujourd'hui, la moitié de ton temps scolaire, tu es en classe UP2A. Et l'autre moitié de ton temps scolaire, tu es dans une classe traditionnelle avec les autres enfants du collège, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et ça se passe comment alors dans la classe normale?
Il y a des élèves qui se moquent à toi parce que tu ne parles pas bien français et tout. Par exemple, l'autre fois, je sors dans le tableau pour présenter un exposé. Et moi, je ne parle pas bien, je parle mal et les autres se moquent. Et moi, j'ai honte, c'est tout.
Je m'appelle Rabah Meksem, j'ai 11 ans.
Tu viens de quel pays?
Algérie. Ça fait un mois que je suis venue ici. Je suis venue ici pour soigner ma mère. C'est un traitement qui dure beaucoup, alors elle nous a ramenés ici pour travailler.
Pour toi, c'est bien d'être dans cette classe intermédiaire?
Oui.
Pourquoi?
J'apprends plus de trucs en France qu'en Algérie. À l'école, je fais passer le temps, mais à la maison... Tu vas tourner, mais il n'y a rien à faire. Mais à l'école, tu peux trouver des nouveaux amis. Tu vas faire avec tes copains les mathématiques, tout ça.
Que ce sont des élèves qui sont très volontaires, qui ont plaisir à apprendre, qui ont plaisir à venir à l'école, à être joyeux, alors qu'ils ont traversé des choses qui ne sont pas évidentes, parce qu'à 11 ans, quitter son pays, ses amis, une partie de sa famille, pour se retrouver dans un pays qu'on n'a pas choisi, parce que... Dans 90% des cas, ce sont des immigrations économiques. Ils s'aperçoivent vraiment que c'est une chance, en fait. Là, récemment, aux évaluations, on a vu arriver donc un petit bonhomme de 2004 qui venait de Guinée.
Qui, 12 ans.
Donc 12 ans, et donc qui avait perdu son père. Sa mère s'était remariée avec un beau-père violent qui le frappait, qui voulait à tout prix qu'il fasse l'école coranique. Mais lui, il voulait aller dans l'autre école, celle où on apprenait à lire, à compter, à écrire, etc. Il s'est enfui, il est arrivé en France, il a été...
Tout seul?
Oui, tout seul. Et ce petit garçon, il m'a impressionné, il m'a ému, il voulait qu'une chose, c'était aller à l'école. Faire comme les autres enfants, aller à l'école, apprendre, s'en sortir par le biais de l'école.
La passion de l'école, hein, selon les mots de cette enseignante d'un collège du 13e arrondissement, où on intègre des élèves primo-arrivants. Vous voulez réagir, Peggy Lelegardiallo?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit la collègue. Les élèves ont une véritable envie, un enthousiasme, une curiosité. Ils participent énormément, ils veulent progresser très vite et parfois progresser trop vite.
Ça se retrouve aussi au niveau du lycée.
Voilà, ils se mettent parfois énormément de pression. C'est vrai que moi, j'interviens désormais en UPE2A, en lycée professionnel, donc avec des jeunes qui sont arrivés tardivement et qui vont devoir s'orienter rapidement. Donc, en un an, on va leur demander d'essayer de se rapprocher des compétences que les personnes à l'école française ont mis presque 12 ans à atteindre.
Tout en maîtrisant le français,
voilà,
évidemment.
Voilà, donc en maîtrisant donc, les bases du français, les bases dans les autres disciplines, connaître les usages, les coutumes. Donc c'est beaucoup, beaucoup de pression. Mais j'ai aussi beaucoup des élèves qui viennent du PE2A collège et qui ne sont pas encore prêts. Donc, qu'on va faire passer de nouveau dans un autre dispositif en lycée professionnel. Voilà, donc ce n'est pas pris comme un redoublement, c'est pris comme une récompense, une progression.
Voilà. UPE2A, ce sont des classes donc spéciales. Hein, on va intégrer effectivement des primo-arrivants, notamment. Mamadou Diallo, vous n'êtes pas passé par la case collège en France, puisque vous êtes arrivé à l'âge de 17 ans. Vous avez directement intégré une formation professionnelle. Alors vous êtes originaire de Sierra Leone,
oui,
c'est ça?
Exact, oui, c'est ça.
Où vous avez été, je crois, enfant soldat dans votre jeune âge.
Oui, exact.
Et puis vous avez grandi ensuite en Guinée-Conakry. Alors, quel a été votre parcours?
Mon parcours, c'est que j'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans à Sierra Leone. Et donc, en fait, on a pu fuir la guerre en Sierra Leone pour se retrouver à l'abri en Guinée. Donc, on s'est retrouvé en Guinée, mais...
Vous avez fui la guerre.
On a fui la guerre, et en fuyant la guerre, donc on était dans la forêt. C'est là vraiment que j'ai été, en fait, capturé avec ma grande sœur. Et on a pu se séparer avec moi, mon petit frère et ma petite sœur.
Vous avez été libéré par l'armée guinéenne.
On a été libéré par l'armée guinéenne. Donc finalement, il y avait qui m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait, je sais pas si c'était la chance ou c'était le bonheur qui me, il y avait quelqu'un qui nous connaissait dans l'armée guinéenne. Qui nous a reconnus un peu. Il a appris, en fait, on n'est pas des rebelles. Et finalement, on s'est retrouvés en Guinée.
Vous êtes retrouvés en Guinée, et puis votre mère, elle, est partie en France.
Oui. Oui, ma mère, elle est partie en France. On ne savait pas si ma mère était encore en vie. Et finalement, on a pu savoir vraiment 5 ans, 10 ans plus tard, qu'elle faisait ses démarches par rapport à l'ONU et l'OFPRA.
L'Office français de protection des réfugiés exact, et apatrides.
Exact, voilà, c'est ça. Et donc, finalement, elle a pu faire ses demandes. Et finalement, on s'est retrouvés en France.
Et donc, vous l'avez rejoint à l'âge de 17 ans. Alors, que s'est-il passé pour vous quand vous êtes arrivé? Quelle formation avez-vous rejoint?
À l'âge de 17, quand je suis arrivé en France, déjà même de quitter le pays, ça a été difficile pour moi parce que j'ai grandi là-bas, j'ai connu tout ce que ce pays qui m'a tout donné, que de quitter tous ses amis et quitter la famille qu'ils ont été là pour nous. Et pour venir en France, ça a été difficile, vraiment beaucoup difficile parce que je me rappelle jusqu'à présent, j'arrêtais pas de pleurer. J'étais le seul. Les autres, ils pleuraient, mais moi, j'arrêtais pas parce que je...
Vous étiez triste de quitter votre pays.
J'étais triste de quitter mon pays, mais de quitter aussi les gens aussi que j'ai grandi, et de les tous de les laisser pour venir ici. Et finalement, quand je suis descendu à l'aéroport de Charles de Gaulle, et j'étais le seul, en fait, à reconnaître ma mère de loin. Parce que c'était incroyable, mais je ne croyais pas si c'était elle. Et,
vous ne l'aviez pas vue depuis très longtemps.
Oui. Et je dis à mes soeurs, à ma grand-sœur, je dis c'est maman qui est arrêtée là-bas. Elle m'a dit non, ce n'est pas elle. Je dis si, c'est elle. Et quand je l'ai vue, je ne croyais pas. Et donc, voilà. Et donc, finalement... J'étais vraiment beaucoup perdu avec ma grande sœur. Je me rappelle quand on avait pris l'escalator, on a fait vraiment 2 minutes sans monter sur l'escalator. Et ma grande sœur est montée l'escalier et voulait pas prendre l'escalator. Et finalement, c'était mon petit frère qui s'amusait à monter sur l'escalator.
Donc ça a été compliqué de s'adapter aussi à un nouveau pays.
Ouais, et plus encore, j'avais du difficulté avec le français. Et je me dis, en fait, comment vous faites pour avoir un changement de métro, pour prendre de notre métro et de prendre de notre métro, comment vous faites pour...
C'était compliqué de se repérer. Et en termes de formation professionnelle, qu'est-ce que vous avez choisi?
J'avais choisi en fait la mécanique automobile. C'était à Place d'Italie que j'étais allé passer mon texte d'évaluation. Et finalement, ça s'est bien passé, j'avais eu mon texte. Et on m'a mis en fait dans une liste d'attente parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et donc, finalement, je me suis retrouvé à Genevay-Malezieux, qui est dans le 12e arrondissement, et dans la chaudronnerie.
La chaudronnerie, donc c'est l'art aussi de travailler le métal. On en reparlera. Mamadou Diallo, Anne Gosselin, Peggy Lelégard-Diallo, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash. On parlera des difficultés que rencontrent au quotidien ces primo-arrivants africains. Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue ou vos questions, si vous en avez. Pour nos invités, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous écrire sur Facebook et Twitter. On vous attend, les voisins. À tout de suite, dans 3 minutes.
International.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, sujet éducation, comme chaque vendredi. Comment les jeunes migrants africains tout juste arrivés en France trouvent-ils leur place dans le pays? À l'heure où Marine Le Pen, candidate du Front National à la présidentielle, demande la fin de la scolarisation des enfants étrangers en situation irrégulière. Et pourtant, cette intégration passe souvent par l'école, pour ceux qui en ont encore l'âge. Et la plupart rejoignent une filière professionnelle, une filière pourtant déconsidérée, mais où ils sont déterminés à percer et à faire leurs preuves. Nous parlerons aussi des étudiants et des difficultés qu'ils rencontrent pendant leurs premières années françaises, car évidemment, logement, titre de séjour, emploi deviennent rapidement un des priorités qui pèsent sur le quotidien. On en parle avec Mamadou Diallo, sierra-léonais d'origine, arrivé en France à l'âge de 17 ans, aujourd'hui vous en avez 27. Peggy Lelégard Diallo, professeur en lycée professionnel, auteur du livre Les primo-arrivants africains et la voie professionnelle réussite ou échec, tout juste sorti aux éditions L'Harmattan, et Anne Gosselin, chercheuse, auteure d'une enquête sur la durée d'installation des migrants d'Afrique subsaharienne en France. Et justement, Anne Gosselin, on va parler de cette enquête. Les migrants subsahariens représentent le deuxième groupe d'immigrés en France, derrière les Maghrébins. Dans cette enquête que vous avez coécrite, qu'est-ce qui a pu vous surprendre? Qu'est-ce qui a pu vous étonner?
Et en fait, dans cette enquête, ce qui nous a beaucoup marqué, donc c'est une grande enquête qu'on a menée auprès de plus de 2500 personnes immigrées subsahariennes en France. Et ce qui a été très marquant pour nous, c'est qu'en fait, il y a évidemment une immense diversité de profils, une majorité de femmes, des personnes venues pour des études, mais aussi pour travailler, pour rejoindre de la famille. Et malgré cette grande diversité de profils, en fait, le lot commun de l'ensemble des immigrés subsahariens qui arrivent en France, c'est une longue période de précarité. Et en fait, on ne s'attendait pas forcément à des chiffres aussi élevé, puisque en moyenne, au bout de 6 ans, seulement la moitié des femmes sont installées, c'est-à-dire ont obtenu un titre de séjour, un travail et un logement personnel, et c'est 7 ans pour les hommes. Et donc c'est une très longue période de précarité pendant laquelle les immigrés font face à des difficultés quotidiennes. Et deuxième élément peut-être assez surprenant, pas tellement surprenant en fait, mais très marquant, c'est que dans la période la plus récente, cette période s'allonge. En fait, les difficultés sont de plus en plus nombreuses pour les personnes qui arrivent dans les dernières années.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette installation ?
En fait, on voit bien que dans les dernières années notamment, il y a deux éléments de contexte, je pense, qui expliquent ça. Premièrement, il y a un durcissement des politiques migratoires. Il y a notamment un renforcement des conditions pour le regroupement familial, mais pas seulement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus long pour obtenir un titre de séjour en France. Et le deuxième élément, c'est la crise économique. Un homme subsaharien qui arrivait avant 1996, en fait, il trouvait un emploi dans l'année qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Et en fait, pour les personnes qui arrivent là récemment, depuis une dizaine d'années environ, ça prend 4 ans pour trouver un emploi qui permette de subvenir à ses besoins. Donc on voit bien que ces deux éléments, à la fois le contexte des politiques migratoires et d'un autre côté le marché de l'emploi, en fait ça pèse sur les difficultés d'installation des immigrés.
Qu'est-ce que vous en pensez, Peggy Lelégard Diallo, de ces difficultés-là à obtenir un titre de séjour? Vous retrouvez ça pour vos élèves?
Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai des élèves qui vivent beaucoup dans des situations précaires ou qui, lorsqu'ils vivent en famille, appartiennent à des familles dites défavorisés. Beaucoup d'élèves sont sans papiers, sont venus avec de grands espoirs justement pour trouver un travail, mais réussir grâce à l'école. Donc cette précarité, ils la vivent au quotidien et elle peut en effet perturber, comme l'a dit la collègue du 13e arrondissement, perturber aussi leur scolarité lorsqu'ils sont amenés à faire des démarches à la place des parents.
Ça peut être le cas,
d'où l'importance aussi de faire des actions vis-à-vis des parents pour qu'ils s'impliquent plus dans la scolarité des enfants. Je ne dis pas qu'ils ne s'impliquent pas, ils sont très intéressés, ils veulent la réussite de leurs enfants, sauf qu'ils ne maîtrisent pas tous la langue et ils ne connaissent pas le système scolaire français. Et les adolescents que je peux avoir peuvent aussi profiter de ces ignorances à la phase de l'adolescence pour leur faire croire certaines choses. Donc le
Par
rôle
exemple.
Des parents est très important. Que le professeur est absent, qu'il n'y a pas de travail à faire à la maison.
Des comportements
etc.
typiques d'adolescents.
Oui, parce qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a les problématiques, tous les ans, problématiques liées à la migration. tout ce qui est lié au choc culturel, les codes de l'école qu'ils ne connaissent pas, les usages, les coutumes, l'absence de maîtrise de la langue pour beaucoup, hein, et toutes les problématiques liées à l'adolescence. Le fait de retrouver, comme le disait Mamadou aussi, des parents qu'ils n'ont pas vus depuis 7, 9, voire 10 ans.
Parce que souvent, voilà. Ce sont des enfants qui viennent rejoindre leurs parents déjà en France depuis un certain
temps.
Très
souvent. Moi, les élèves que j'ai depuis 4 ans sont très souvent des élèves qui ont déjà leur famille en France et qui décident de les faire venir. Parce qu'un parent âgé au pays ne peut plus s'en occuper, parce qu'ils ont eu très jeunes, généralement, donc les grands-parents s'en chargent. C'est une problématique supplémentaire lorsqu'ils découvrent un nouveau pays, un nouveau climat, des codes, des usages différents, des valeurs différentes. Ils découvrent une famille qu'ils ont fantasmé. Ils ont fantasmé aussi souvent le pays et ils voient les conditions difficiles dans lesquelles on les élève. Beaucoup sont aussi dans des familles monoparentales, donc où la maman en charge plusieurs enfants et donc des situations parfois précaires de vie. Mamadou ne l'a pas dit, mais lorsqu'il est arrivé en France, en effet, il a vécu avec sa mère qui avait un logement de 17 mètres carrés, mais ils étaient 5 dans 17 mètres carrés.
On peut imaginer en plus que ça peut avoir des conséquences sur la scolarisation de ces enfants-là et de leur compréhension de ce qui se passe à l'école.
Tout à fait. La précarité du logement, des déplacements, mais parfois aussi des carences affectives, alimentaires. Tout ne se passe pas forcément très bien lorsqu'on envoie aussi un enfant chez une tante, chez un oncle, puisque les personnes au pays n'ont pas... ne connaissent pas la réalité. Et donc, ces représentants familiaux qui ne peuvent pas refuser l'accueil de l'enfant le vivent aussi très mal. Donc, il y a beaucoup de souffrance de tous les côtés.
Alors, vous donnez des cours, surtout de français, hein, dans ces classes spéciales pour primo-arrivants, oui. En lycée professionnel. Quel rôle vous pensez devoir jouer? On imagine que vous êtes plus qu'une enseignante, finalement, qui vient seulement pour donner cours.
Tout à fait. Je peux être aidée par d'autres personnels, assistants sociaux, infirmières, mais dans l'établissement où j'exerce, ces professionnels ont été absents pendant plus d'un an. Donc le rôle est le rôle de formateur, mais surtout d'allier au quotidien pour les aider. Il faut un référent dans l'école. C'est souvent un adulte. Donc ça peut être un ou plusieurs professeurs. Et moi, je me vois plus comme une alliée et sans être prétentieuse, comme un peu une tutrice de résilience pour les aider. Hein, parce qu'ils doivent être aidés à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Donc le soutien, les accompagnements, parfois même pour des démarches, l'apprentissage de la langue, beaucoup de bienveillance, mais aussi de la rigueur. Parce que je ne veux pas leur mentir, la vie est difficile, hein. Elle est pour eux, je le sais, mais elle le sera encore les années à venir, et elle le sera encore plus lorsqu'ils vont intégrer une classe ordinaire, du fait d'un accueil qui n'est pas toujours tendre vis-à-vis des jeunes de seconde génération, souvent lycée professionnel. Donc il faut qu'ils se préparent à énormément de choses. Ils ont beaucoup de défis.
Parce que ces primo-arrivants vont un jour, au bout d'un an en général, rejoindre ce qu'on appelle les classes banales, hein, donc la formation professionnelle classique, où ils vont se retrouver confrontés, vous le dites, à des jeunes de seconde génération. Et qu'est-ce qui peut mal se passer alors dans ces cas-là?
Ce qui peut mal se passer, Mamadou l'a bien expliqué, et il pourra le réexpliquer après, c'est des moqueries vis-à-vis de la culture d'origine, des propos racistes, des persécutions. Donc les choses sont très très difficiles, puisque les jeunes de seconde génération n'ont pas une image positive de la voie professionnelle.
Ils se sentent relégués.
Voilà, c'est une voie qui est méconnue, mal connue, même par les professeurs. C'est une voie aussi, on transmet une mauvaise image de la voie professionnelle. Et les parents aussi fantasment le bac général pour leurs enfants.
Donc si on fait un bac professionnel, on échoue finalement aux yeux des parents.
Alors que, bon, moi, je les prépare à la voie professionnelle et j'ai une bonne image de la voie professionnelle. Je sais que c'est une voie de la réussite, que ce n'est pas parce qu'on a un bac général qu'on va réussir. On a besoin d'artisans, on a besoin de professionnels compétents. Et les professionnels compétents peuvent très bien réussir leur vie et bien gagner leur vie. Voilà. On ne peut pas fonctionner avec uniquement des cols blancs, des intellectuels.
Et donc pour vous, ces jeunes de seconde génération qui se retrouvent aussi en formation professionnelle, le font payer finalement aux autres, aux primo-arrivants ?
Alors, le font payer, oui et non, parce que les primo-arrivants n'ont pas une mauvaise image de la voie professionnelle. Pour beaucoup, la situation familiale, lorsqu'il y a famille, parce qu'il y a aussi les mineurs isolés, qu'il ne faut pas oublier, fait qu'ils vont vouloir entrer dans la vie active très vite. Et en lycée professionnel, on valorise le fait que même s'ils rentrent dans la vie active très vite, s'ils apprennent vite un métier, en obtenant un CAP ou un bac professionnel, ils pourront peut-être poursuivre pour les meilleurs, si leurs conditions le permettent. Les conditions le permettent, mais ils pourront aussi faire la validation des acquis de l'expérience, ce que j'espère que Mamadou fera, puisqu'il encadre maintenant des stagiaires qui sont passés dans son école. Ils peuvent obtenir des diplômes sans forcément retourner à l'école. Mmh. Et ils peuvent continuer à progresser, et il y a la formation continue. Mmh. Donc ils ne sont pas relégués, ils ne sont pas destinés à rester uniquement, entre guillemets, détenteurs d'un CAP ou un bac professionnel. Pour beaucoup, ils peuvent prétendre à bien plus. Mmh. Mais au bout
mais
d'un
déjà,
an...
ils peuvent commencer par
voilà,
ça.
Voilà, ils peuvent commencer par ça. Ils ne sont pas assignés à rester, voilà, à un niveau de diplôme qui sont classés dans les premiers niveaux de diplôme.
Mamadou Diallo, comment vous avez vécu cette confrontation avec les autres élèves qui n'étaient pas primo-arrivants donc pendant votre formation professionnelle ? Comment ça s'est passé ?
Comment ça s'est passé ? Donc, du coup, je me suis retrouvé à Genevay-Malaisieux avec dans une classe de CAP et ça a été un peu difficile pour moi parce que j'étais beaucoup stressé parce que j'avais des difficultés déjà beaucoup en français et donc de m'adapter avec eux, ça a été vraiment difficile pour moi et je me suis déjà dit, en fait, ils vont se moquer de moi et je ne vais pas y arriver. Et finalement, je me suis retrouvé dans cette classe, dans cette classe de CAP. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout en français, mais en atelier, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Parce que quand je lisais ce qu'il y a, quand je lisais vraiment... un livre, vraiment, quand le prof de français quand me donnait un livre de lire, et je n'osais pas vraiment le lire. Pendant un bout de temps,
j'avais honte
par rapport à mon niveau. Et quand je vis mon voisin de côté, qui était né ici, qui avait pris, en fait, qui avait commencé à lire, et j'ai vu, en fait, on était dans le même sujet. Et finalement...
Que lui aussi avait des difficultés à lire.
Qu'il avait des difficultés à lire et ça m'a osé à continuer à lire.
Ça vous a rassuré ?
Ça m'a rassuré. Et après, j'avais des propos qu'on me disait, qu'on me regardait quand je continuais à lire. Et j'avais mon voisin de côté qui rigolait et qu'on balançait des bouts de feuilles, des bouts de papier sur mon derrière. Quand le prof, il entend des cris derrière. Et on me disait à la récréation, sur le couloir, on me disait ça, l'Africain, blédard, on me traitait de blédard, de l'Africain, sale black et tout ça là.
Vous avez dû faire face à des remarques racistes en fait.
Face à les remarques racistes, on me disait tu viens d'arriver, tu veux. Tu es le chouchou des profs, alors que j'étais là parce que à midi, au lieu d'aller manger, et j'avais une demi-heure pour manger, mais j'avais une demi-heure d'un cours de français que je partais
Et finalement, vous leur avez prouvé que vous avez réussi. Hein. Vous êtes devenu chaudronnier sur des chantiers. Justement, les voisins, on va parler de réussite. Comment est-elle perçue quand on ne peut pas y échapper? On se retrouve dans un instant, 7 milliards de voisins, après la caravane passe avec Perdu ta langue.
Ça, c'est une chanson immigrée de dynastie nomade et made in nowhere. Avec un air déraciné, je suis de là où je suis né, sans châter. Moi je débarque au village sin pretension, et ça fait parler Jacques T, les autochtones. Tout le monde veut savoir si mon nom est personne. J'ai l'accent du métec et la tête qui questionne. Qu'est-ce qui se passe étranger, t'as perdu ta langue? Ouais, je préfère la paumer plutôt que me la faire pendre ailleurs. M'envoyer en l'air, sifflant l'air migrateur. Le surnaturel, je suis qu'un alien. I lost my tongue and changed my song. Cette fois pâteuse et distraite, ma langue de pute depuis la joue discrète. Partie en voyage au monde polyglotte, elle trafique les messages et joue les interlopes. Slang, patois, argot de puta madre, tout lexique cosmopolite, baïonné. Mon javanais ayant pas très bien tourné, j'ai donc dû abandonner ma langue au chaboté. كل إنسان يحب الجنة سافر يسافر ويتهنى كل إنسان يحب الحرية كل إنسان كل إنسان كل إنسان يحب يشوف يشوف السعادة كل إنسان يحب ينسى ينسى تاني العبودية I lost my tune and changed my song and getting stranger I lost my tune and changed my song.
Sept milliards de voisins, nous sommes en ligne avec un auditeur, Faudé, à Paris. Bonjour Faudé.
Oui, bonjour Charlie.
Alors vous, vous êtes originaire du Sénégal, il me semble. Vous êtes arrivé en France à quel âge?
Oui, tout à fait. En 99, j'avais 16 ans.
Et dans quel cadre est-ce que vous êtes venu en France ici?
Par le biais du regroupement familial, en fait.
Alors, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Quel témoignage vous voulez apporter par rapport à cette émission?
Ouais, déjà, le fait de quitter son pays pour une aventure nouvelle. Donc, en fait, on est complètement déraciné. On arrive dans un pays où on n'a pas de connaissance de pas mal de choses. Donc, non seulement il y a le biais de la langue, qui est un peu difficile, mais au fur et à mesure, on s'y habitue, en fait. Donc, en fait, moi, je suis arrivé, je suis parti directement en cinquième. Donc, par la suite, le premier jour, le deuxième jour, ils ont appelé mon père en lui disant « Non, votre fils ne pourra pas suivre parce qu'il est trop timide et il aura du mal à s'adapter. »
Parce que nous, vous étiez en classe normale, on va dire, en classe banale.
On était en classe normale, voilà, de cinquième. Et ils ont appelé mon père en lui disant « Ouais, votre fils, il parle pas et il pourra pas s'adapter, il faudra le changer. » J'ai dit à mon père « Ben non, au Sénégal, nous, on a l'habitude que quand le professeur, il parle, on se tait. » Ouais. Et quand on a une question, on lève le bras et voilà.
Donc, c'était par la décalage.
Suite, on est arrivé. Oui, voilà. Donc par la suite, ils ont vu au niveau des résultats, tout ce qui est mathématiques et tout, ça allait. Donc, du coup, ils m'ont laissé. Donc 3 ans après, fallait s'orienter dans un lycée professionnel. J'avais dit non. Je voulais aller dans le général. Mais au final, j'ai quand même écouté mes conseillères. Et j'ai pris le filière aéronautique, en fait. Et aujourd'hui, je travaille dans l'aéronautique, dans tout ce qui concerne des réacteurs et tout ça. Donc aujourd'hui, franchement, le lycée professionnel, c'est une bonne cause.
Ah oui, au début, ça ne vous plaisait pas comme option, et puis finalement, vous avez été convaincu.
Je connaissais pas tout ce qui est lycée professionnel. Pour moi, c'était ce qu'avaient pas réussi leurs études, en fait.
C'est ce qu'on disait, effectivement. Alors, c'est très mal perçu.
C'est une bonne chose, voilà. Donc, mais par la suite, il faut avoir la motivation, bien sûr. Il faut avoir la motivation de vouloir réussir. Et franchement, aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde. Et je peux dire merci à mes conseillères, en fait.
À vous les remercier de vous avoir fait choisir cette formation. Et vous avez le sentiment d'avoir réussi, si on peut dire.
Tout à fait. Franchement, oui, tout à fait. Sincèrement, même aujourd'hui, si j'ai envie d'aller aux États-Unis passer un week-end, je peux y aller. Bon, parce que c'est pas moins cher. Mais grâce à ça, quoi. Alors qu'au début, je voulais prendre le lycée général parce qu'on a l'habitude. Quand on est au pays, généralement, on a l'idée de finir ministre ou président de la République. Donc, il faut choisir les longues études, ainsi de suite. Alors que c'est pas ça. Tout le monde ne peut pas devenir ministre ni président.
Et finalement, aujourd'hui, donc vous êtes dans l'aéronautique.
Dans l'aéronautique, voilà. Je suis technicien dans les réacteurs des gros porteurs, en fait.
Très bien. Eh bien, merci, Faudé, pour votre témoignage très positif, hein, qui nous éclaire un peu sur les réalités qu'on vit quand on est un primo-arrivant africain. Et puis, le parcours qu'on peut avoir. Vous voulez réagir, Peggy Lelegardiello?
Oui, alors je veux réagir à ce que Faudé a dit. En effet, vous avez parlé du titre de mon ouvrage tout à l'heure, « La voie professionnelle réussite ou échec pour les primo-arrivants africains ». Moi, ce livre, il a vraiment deux objectifs. D'une, mettre en lumière le mérite des primo-arrivants africains, hein, la volonté de réussir, le travail, la politesse aussi, parce qu'on va distinguer les primo-arrivants des autres élèves. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et le parcours est très difficile, mais je veux aussi mettre en avant la voie professionnelle, parce que c'est vraiment une voie de la réussite. Et on a trop, mais tout le monde, la société valorise trop, à mon goût, la voie générale. Il faut absolument avoir un bac général pour s'ouvrir toutes les portes. Mais non, je suis désolée, la personne qui a déjà construit son projet professionnel peut commencer très tôt à apprendre son métier, peut rentrer vite dans la vie active, mais si elle souhaite continuer, elle peut continuer, obtenir un BTS, devenir technicien, comme monsieur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à changer.
Beaucoup de possibilités qui peuvent s'ouvrir.
Beaucoup de possibilités et la mixité qui est souhaitable et qui malheureusement n'existe pas en lycée professionnel pour l'instant, du fait de la voie professionnelle qui n'est pas valorisée, si ce n'est depuis quelque temps par nos gouvernements, mais par la voie de l'apprentissage, non pas par la voie scolaire.
Il va falloir y réfléchir. Mmh. Vous avez mené plusieurs entretiens avec des jeunes pour votre livre, et l'un d'entre eux vous a dit, je vais le citer, « Pour moi, la réussite d'un Africain qui arrive en France, c'est celui qui va d'abord réussir à l'école. » Parce que ce n'est pas du tout évident quand on quitte l'Afrique que l'on part de son pays natal. Et puis il dit aussi « Pour nous, les enfants, c'est plus facile avec l'école que pour les adultes qui n'ont pas la chance de pouvoir aller à l'école. Et pourtant, à l'école, on apprend comment le pays fonctionne, comment les lois fonctionnent. » Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Gosselin? Quel problème se pose à ceux qui n'ont pas en fait cette chance de passer par l'école?
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que effectivement, après, parmi les immigrés subsahariens, beaucoup ont quand même un certain niveau de français, même si pas tous et pas tous de la même façon. Mais en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que les étudiants, ce qui représente quand même une bonne part des immigrés subsahariens, puisque c'est 16% des hommes et 24% des femmes, donc plus d'un quart des femmes qui viennent en fait pour faire des études, pour eux, pour les étudiants, l'installation est plus facile. C'est-à-dire, on voit bien que l'accès au logement, l'accès au titre de séjour est plus rapide, ne serait-ce que parce qu'il y a le visa étudiant. Et une fois qu'ils ont fini leurs études, en fait, ils trouvent, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est qu'ils trouvent un travail dans l'année. Donc effectivement, moins de difficultés d'installation pour les étudiants qui arrivent en France.
C'est plus simple pour les étudiants parce qu'ils ont peut-être un chemin tracé, des possibilités qui s'ouvrent.
Et une reconnaissance du diplôme, parce que beaucoup, beaucoup d'Africains arrivent avec des diplômes. Plus de 80% viennent soit du secondaire, soit du supérieur. Mais il n'y a pas toujours la reconnaissance des diplômes derrière.
Mamadou Diallo, on a des questions qui nous parviennent pour vous sur notre fil Facebook, notamment celle de Soumaïla à Bamako, qui vous demande comment Mamadou voit-il l'avenir en France avec la montée du Front National, la montée du FN. On en a parlé avec Marine Le Pen qui souhaite la déscolarisation des enfants étrangers irréguliers en France. Qu'en pensez-vous?
Moi, c'est un peu difficile de de répondre à tout ça là, parce que en fait j'aime bien la politique et j'aime bien écouter les débats et tout ça là. Comme là il y a eu les débats de que j'avais écouté par rapport à les débats de primaire
de droite
des républicains. Que j'étais vraiment que j'ai été vraiment allé voter pour
Parce que vous êtes naturalisé, hein, ça on l'a pas dit, mais vous avez été naturalisé.
J'ai été naturalisé, donc voilà, et j'ai été voté. Mais par rapport à ce que Marine Le Pen qu'elle dise par rapport à ce qu'elle entend de dire, moi je pense en fait, on est dans un pays de la France en fait, c'est le pays en fait qui, je pense en fait, qui reçoit beaucoup des immigrés qui vient dans notre territoire. Et je pense que c'est pas vraiment une bonne, ce sera pas une bonne idée qu'elle puisse vraiment puisse enlever
ces droits-là qu'on peut donner aux personnes qui arrivent.
Parce que si on voit toutes cette chance-là qu'on n'a pas, qu'on quitte de notre pays pour revenir dans un autre pays pour venir apprendre, parce qu'on n'a pas les moyens et tout ça là. Mais si on avait les moyens et les moyens vraiment pour y arriver, on serait pas vraiment la possibilité de venir pour y arriver, parce que du coup on voit tous les jeunes qui prennent les bateaux pour venir pour venir en Europe
et qui aimeraient ne pas avoir à le faire. En tout cas, pour vous, c'est une chance, d'être ici.
C'est une chance, moi, pour moi, d'être ici.
Merci à vous, Mamadou Diallo, Peggy Lelégard Diallo, Anne Gosselin. Merci aussi à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Et puis, merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Tout de suite, un nouveau journal, les voisins. Écho d'ici, écho